Les enfants ne peuvent plus aller à l'école, eh bien l'école va venir à eux, chez eux, à travers leur poste de télévision ou leur ordinateur. Depuis lundi, France Télévisions propose chaque jour des cours pour les élèves d'école primaire, pour les collégiens et pour les lycéens. Des contenus à retrouver sur France 2, sur France 4, sur France 5 et sur le site lumni.fr. La maison Lumni, L-U-M-N-I, c'est le nom de cette initiative destinée à aider les parents à faire la classe à la maison. Et pour animer ces cours, des enseignants évidemment, mais également des blogueurs, des youtubeurs, experts et Alex Good. Bonjour Alex Good.
Bonjour Philippe, comment ça va ?
Ça va très bien et j'ignorais totalement que vous étiez prof.
Ah bah écoute, moi aussi.
Non mais blague à part, qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez été formé ? Ou est-ce que vous abordez cet exercice comme un exercice d'animation classique, comme vous savez le faire d'ailleurs ? Comment vous êtes arrivé dans cette émission, dans ce programme ?
Écoute, l'histoire, c'est que c'est venu à la base de Lumni, qui est la plateforme éducation d'audiovisuel public, de France Télé-Éducation, de l'INA, de Arte, voilà, tout ça. Et c'est un mec, Ogar, la boss de ça, qui s'est dit très vite, juste avant le confinement, quelques jours avant, ça va arriver, il faut qu'on fasse quelque chose pour les enfants. Voilà, ça a été validé par Takis Candilis très vite. Ensuite, moi, j'ai travaillé avec Média TV, qui était producteur de ma quotidienne sur France 3 et qui a l'habitude de faire des quotidiennes avec moi. Mmh. Et on s'est embarqué là-dedans parce que c'est vrai que c'est un énorme travail. Alors après, la légitimité, si tu veux, c'est vrai que j'ai commencé sur les chaînes jeunesse, commencé sur Disney Channel. Après, c'est 24 ans que je travaille au journal de Mickey. Donc c'est vrai que je suis un peu habitué et j'ai fait beaucoup de programmes jeunesse sur France 4. Donc,
voilà. Mais je
pensais ça.
Je vois que vous êtes habitué aux chaînes jeunesse, que vous me tutoyez comme si j'avais 12 ans, mais ça me fait plaisir, ça met un petit coup de jeune.
Oui, c'est vrai qu'on se connaît depuis tellement longtemps.
Vous étiez bon élève ? La question que se posent tous les parents, vous étiez bon élève ?
Alors j'étais très bon élève en maths, en français et en sciences de la vie et de la terre. À l'époque c'était les sciences nat. Mais voilà, j'étais très bon élève là-dedans. J'étais un peu moins bon, par exemple, en histoire géo. Voilà, mais là du coup je rattrape mon retard tous les jours et c'est passionnant. Et je regrette d'avoir moins suivi l'histoire géo à l'école maintenant parce que voilà, j'apprends tellement de choses. Je suis tellement content de faire ça que voilà.
D'accord. Vous n'êtes pas seul. Il y a quand même des enseignants avec vous.
Alors en fait, tout ça est monté avec le ministère de l'Éducation nationale, qui nous aide beaucoup, Monsieur Blanquer et toute son équipe. C'est eux qui nous mettent, entre guillemets, qui nous conseillent les profs, qui nous envoient les profs, qui s'occupent de faire tous les programmes. Donc on travaille main dans la main avec eux. Voilà, si vous regardez l'émission un peu depuis le début de la semaine, on a plein de profs, ça va tourner, on a plein de matières, ça va tourner parce que j'entends parfois des commentaires, ah, il manque ça. Mais en fait, ça va tourner un petit peu tous les jours.
Ben, c'est normal.
Voilà, regarder. Voilà.
Mais déjà, seulement 3 jours sont passés, donc on ne peut pas avoir toutes les matières dans les 3 jours. Quand on est en classe, on sait que les cours, ça va du lundi au vendredi, voire au samedi. On va entendre à quoi ressemble un cours de français de CM1, CM2 avec vous, Alex Good, et avec Nicolas Solet, il est professeur de français au programme Le Livre de la Jungle.
Est-ce que vous savez ce que ça signifie que mougli ?
Alors moi, je crois que je sais, c'est un guili, mais un peu mou, tu vois, un mougli. Non, pas du tout.
C'est tout ton talent ?
Pas du tout.
De jeux de mots comme ça.
Désolé.
Non, c'est pas tout à fait ça. Alors, mougli, ça signifie petite grenouille, parce que c'est un être humain, un bébé humain, qui n'a pas de fourrure, contrairement à tous les autres animaux de la jungle. Alors, les autres animaux de la jungle, eh bien, il y a des gentils, il y a des méchants. On va commencer par les gentils, c'est les principaux alliés de mougli. On a d'abord Bagheera, qui est une sorte de caution affective. Elle apporte de l'affection et de l'autorité. Et elle est accompagnée de Balou, donc l'ours Balou, le fameux qu'on vient d'entendre chanter, qui lui est un éducateur et qui lui apprend ce qu'on appelle les maîtres mots, c'est-à-dire le langage des animaux qui lui permet, Mowgli, de vivre en harmonie avec tous ses personnages.
Alors je précise que c'était un cours de français sur le livre de Kipling et pas un cours sur le dessin animé de Disney, mais c'est quoi votre rôle à vous, Alex Good, de rendre ça plus ludique ?
Écoute, je ne sais pas si c'est rentable ou pas, c'est plus d'être un passeur, tu vois, d'accompagner les cours, effectivement, de rendre ça un peu vivant.
Ouais.
Voilà, il y a deux choses très différentes. C'est-à-dire que tu as les cours, qui sont vraiment des cours classiques, qui sont pour les primaires à 9h sur France 4, pour les collégiens à 14h et pour les lycéens à 15h. Après, tu as la maison Lumni, l'émission, qui est sur France 2 à 10h, sur France 5 à 11h. Et sur France 4 à 16h, qui là est plus pour CM1, CM2, 6e, 5e, mais aussi pour toute la famille. C'est l'extrait que tu viens de passer, où effectivement il y a des cours en plateau, où on fait des expériences, voilà, où c'est vraiment une écoute conjointe, où tout le monde peut regarder, faire les choses à la maison. Donc c'est très dissocié, tout ça. Tu as la maison l'émission, la maison Lumni l'émission et la maison Lumni les cours.
Vous faites du Alex Good, c'est-à-dire des jeux de mots tout le temps, ou pas seulement ? Est-ce que vous essayez d'être sérieux ?
Non, mais je suis toujours très sérieux.
D'accord, bien sûr.
Le jeu de mots ou la petite blagounette, si tu veux, c'est pour essayer, comme toujours, d'intriguer un peu l'enfant et de l'amener dans l'histoire. Tu vois, c'est pareil, là, sur la chronique que tu as vue, que tu nous as fait écouter, sur le Lille Voisin, on commençait avec la chanson de Balou, il en faut peu pour être heureux. Tu vois, on essaie de toujours trouver des clés pour faire que les enfants aient
Alex,
envie d'écouter.
Tout le monde rigole en régie parce que vous me parlez comme si on sortait du bistrot et qu'on se tutoyait. Ça va, tu vas bien, Alex, etc. Et vous savez qu'on est à la radio, qu'il y a des gens qui nous écoutent.
C'est vrai, il faut que je te vous vois. Je parle à tout le monde. Excuse-moi, je vais m'y mettre.
Vous êtes là, Alex, pour faciliter la parole. On voit à quel point la parole est facile chez vous. Pour donner la réplique au professeur, il nous a dit que vous n'étiez pas très très fort en histoire. Extrait du cours d'histoire, on est sur le règne, comme on dit maintenant, de Louis XIV.
Louis XIV, c'est le fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Et le roi et la reine ont eu beaucoup de mal à avoir cet héritier. Quand enfin Louis XIV est né, on lui a donné comme surnom Dieudonné, parce que pour Anne d'Autriche, sa mère, c'était un cadeau du ciel d'avoir enfin un héritier.
Oui, parce qu'il faut un garçon.
Ben oui, il faut un garçon parce que quand Louis XIII est mort, Louis XIV est devenu roi, mais il est devenu roi très jeune. Il est devenu roi en 1643, à 5 ans.
Ah oui, 5 ans, c'est un peu jeune pour savoir ce qu'il faut faire pour le pays.
On ne peut pas gouverner un royaume quand on a 5 ans, c'est pas possible. Ce qui fait que donc, Anne d'Autriche, sa mère, elle a gouverné la France à sa place, c'est ce qu'on appelle la régence. Alors elle était aidée par le cardinal Mazarin, et en attendant que Louis XIV soit suffisamment grand, c'est eux qui ont géré les affaires du royaume.
Alex Goude dans ses œuvres. Lundi, au programme des CM1, CM2 en histoire, il y avait le règne de Louis XIV qu'on vient d'entendre. En français, c'était l'art de la fable. Au programme mardi en français, le livre de la jungle. En histoire, les grands explorateurs. Comment est-ce que vous choisissez les thèmes? Vous suivez scrupuleusement le programme?
Alors, on essaye effectivement de faire des morceaux du programme dans toutes les matières, parce qu'on a aussi dans la même émission, par exemple, celle d'aujourd'hui qu'on a tournée hier, vous aurez des petites choses à faire à la maison, des petites expériences à faire à la maison avec des choses qu'on a encore à la maison. Mmh. On a des cours de maths aussi avec un professeur qui est en Suisse, qui est en télétravail avec nous.
On va parler des profs après. Mais en tout cas, vous faites le programme. Comme ça, les élèves perdent le moins de temps possible par rapport aux cours normaux. Comment on est certain que les élèves peuvent suivre? Est-ce que vous avez retours? Comment ça se passe?
Alors, écoutez, de ma vie, je n'ai jamais autant de retours. C'est de la folie. Voilà. Sur les réseaux sociaux, je passe ma nuit à répondre aux gens.
C'est pas vrai.
Pour vous répondre, sur les cours qui sont diffusés sur France 4 la journée, on suit scrupuleusement le programme. Mmh. Sur la Maison Lumni, l'émission aussi, mais comme c'est un peu plus vaste, la Maison Lumni, puisqu'on va du CM1 à la 5e, 4e, c'est du programme un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que j'ai envie, si on est très jeune, on révise, on apprend des choses, et si on est un peu plus vieux, comme vous, comme moi, comme peut-être les gens qui nous écoutent, on apprend aussi des choses, parce qu'on s'aperçoit que finalement, on a un peu oublié tout ça, donc c'est très bien de réviser et d'apprendre des nouvelles choses.
Les gens qui nous écoutent, il y a justement des parents et des enfants. Je pense que c'est très important de vous avoir maintenant, Alex Goude, en direct sur Europe 1. Comment les enseignants ont-ils été recrutés? Ils se sont portés volontaires? Là, vous me parlez d'un Suisse qui est en télétravail. Est-ce qu'il y a des professeurs français? Comment ça se passe? Qui sont les profs avec vous?
Alors, c'est encore une fois le ministère de l'Éducation nationale qui nous a beaucoup aidé, qui nous a envoyé des professeurs. Et puis après, ils viennent, ils apprennent à se servir de la caméra, et c'est un nouvel exercice pour eux. Alors, quand ils font les cours classiques qui sont diffusés sur France 4, on leur a un peu appris à comprendre que la caméra, c'est comme la classe. Donc là, on est vraiment en situation comme si on était en classe avec le professeur qui nous parle. Et puis c'est vrai que quand on est sur l'émission, c'est pareil, on essaie de le faire en classe, mais c'est un peu différent pour eux. Il y a des caméras partout. On est sur un vrai plateau de télé. Voilà, mais ils s'adaptent très très bien. Et pour ceux qui sont en télétravail, ils nous font un cours, un cours magistral, comme si on était à l'école. Voilà, c'est vraiment. Il y a plein de professeurs d'ailleurs maintenant qui nous envoient des messages, qui disent on aimerait participer et tout. Donc là, on est en train de voir un peu tous ces professeurs-là et comme les gens qui veulent participer à l'émission, parce qu'on a tous les jours des enfants. On reçoit beaucoup, beaucoup de messages. On fait ce qu'on peut, je le dis pour les gens qui nous écoutent.
Ça va être ma question d'un mot avant qu'on marque une pause. Les gens, les professeurs qui veulent vous aider, vous recrutez encore ou est-ce que vous êtes complet?
Non, on recrute encore. On fait plein de choses différentes, donc ils peuvent nous écrire, il n'y a aucun souci.
Formidable. Vous restez avec nous, on a encore plein de questions à vous poser, Alex Goude. On marque une pause dans Culture Média. La Maison Lumni, le rendez-vous éducatif de France Télé Essai depuis lundi. On se retrouve tout de suite.
Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, il faut continuer à vous actualiser normalement. Dès samedi prochain et jusqu'au 15 avril, actualisez-vous comme d'habitude sur votre espace personnel sur pôle-emploi.fr ou sur l'application Pôle emploi Mon Espace. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez vous actualiser en appelant le 39 49. C'est vraiment très simple. Pôle emploi soutient l'effort collectif de confinement. Alors restez chez vous. Nous redoublons d'efforts pour vous répondre par téléphone au 39 49. Pôle emploi, on est là pour vous.
Salut, c'est Ahmed Silla. Vous m'avez reconnu ? Oui, Ahmed a changé. Ahmed est un homme nouveau, différent, riche, de nouvelles expériences. Vous avez vu sa classe ? Oui, à la radio, ça saute pas aux yeux, quoi. Bon, sinon, je vous attends sur Canal+, pour découvrir mon nouveau spectacle, Différent. Lui aussi.
Découvrez Différent, le nouveau spectacle d'Ahmed Silla. En ce moment, seulement sur Canal+.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Alex Good qui présente La Maison Lumni, c'est du lundi au vendredi sur France 4 à 9h pour les élèves de CP et de CE1. Et puis vous, Alex Good, CE2, CM1, CM2, c'est sur France 2 à 10h. On parle de continuité pédagogique pendant cette période de confinement, mais on se rend compte pour les parents que c'est évidemment très difficile de faire la classe à la maison, tout en télétravaillant, tout en gérant l'intendance et le calme dans la maison. Comment ça se passe devant l'écran? Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que les enfants peuvent être seuls devant l'écran ou est-ce qu'il faut qu'ils soient accompagnés pour un peu plus de sérieux? Qu'est-ce que vous donnez comme consigne aux parents?
Non, alors pour les cours, ils peuvent être seuls, bien sûr. C'est un peu l'objectif, hein, c'est de relâcher aussi la pression sur les parents qui ne sont pas professeurs de base. Mmh. C'est vrai que là, on leur demande depuis quelques jours de faire tous les rôles en même temps. Donc c'est vrai que c'est aussi c'est une mission de service public. Hein, l'émission, c'est aussi, ça permet de libérer un peu la pression. C'est vrai que sur la Maison Lumni, l'émission, souvent, comme on fait des petites expériences, on demande la présence d'un adulte, mais l'enfant peut regarder et après le faire plus tard quand l'adulte est disponible. Voilà.
Puisque vous en parlez, Alex, vous êtes d'être pas seul devant l'écran pour les cours de bricolage ou de cuisine. On va entendre un extrait. C'était l'atelier créatif de lundi intitulé « Créer de la peinture avec des légumes ».
Pour ce « fais-le toi-même »,
oui,
tu vas avoir besoin de plusieurs éléments.
D'accord.
Il te faut un chou rouge.
Un petit chou.
Pour commencer. Du citron, du savon liquide et du bicarbonate.
Ça, le bicarbonate de soude, c'est facile à trouver ?
Oui, très facile à trouver. Tu le trouves dans le supermarché, dans le rayon avec la farine ou au rayon ménager.
D'accord. Voilà. T'as vu, je ne m'approche pas plus de toi. C'est à distance sociale.
Oui, d'accord.
Hein, c'est les règles. On respecte tout ça.
Du coup, il faudra aussi quelques petits récipients en verre pour pouvoir mettre ta peinture dedans. Donc, tu vas commencer par demander à ton papa ou ta maman de te couper un quart de chou. Et ce chou-là, alors attention, avec eux ou ils le font pour toi, tu vas le couper en tout petits morceaux.
Tout petit
morceau. Une fois que tu as tes petits morceaux,
tu les mets là-dedans.
Dans ton blender, hop, que je vais rapprocher. Par
blender
là.
En anglais, mixer en français,
pardon.
J'imagine les parents à la maison avec de la peinture de betterave rouge partout, ça doit être quelque chose. Hein.
Ouais, mais c'est vachement bien, on peut faire des trucs de plein de couleurs et tout, c'est super drôle.
Ah non, mais ça m'a pas échappé, mais après, il faut nettoyer, c'est ça que je voulais dire, c'est à ça que je pensais. J'imagine le carnage.
Mais on fait des expériences plus simples. Par exemple, on a fait une expérience qui a beaucoup marché sur les réseaux sociaux. J'ai reçu plein de vidéos qui est de mettre de l'eau avec du poivre sur l'eau, de tremper son doigt dans le liquide vaisselle et de mettre le doigt dans l'eau. Et à ce moment-là, le poivre s'écarte. Voilà, c'est un truc très simple, très facile à faire. Et il y a un peu tous les niveaux aussi sur les expériences.
Ouais, alors, on a beaucoup parlé des cours de CM1, CM2 parce que ce sont ceux que vous animez. Mais les cours s'adressent également aux CP, CE1, CE2. Extrait d'un cours sur les doubles et les additions avec Laure Brémond et les maîtresses de CP.
Vous avez ici des dés, d'accord? On voit que la face, ici c'est un 6, et ici également. Donc en fait, ici on s'aperçoit qu'on a la même face, les deux. On a deux fois le 6, donc on appelle ça un double. D'ailleurs, c'est une expression qu'on dit souvent, tiens, j'ai fait double 6. Donc maintenant la question est de savoir de combien de cases je vais devoir avancer sur mon plateau de jeu.
C'est pas mal. Il y a des candidats de télé-réalité qui apprennent des choses aussi également. Plus sérieusement, on a parlé du fond. Est-ce que vous avez également soigné la forme pour que ça reste attractif? Par exemple, la maîtresse de CP, elle est devant un tableau avec un décor de classe reconstitué. Vous, on vous voit avec trois enseignants sur un grand et beau plateau de télé, dans une ambiance cosy. Il y a des sièges à un mètre de distance. Est-ce que la forme, c'est importante, presque aussi importante que le fond?
On a essayé de faire dans le délai qui était imparti, si tu veux, parce que c'était un peu fou quand même. On ne monte jamais une émission de télé, enfin plusieurs émissions de télé, un contenu comme ça en une semaine. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait du mieux qu'on a pu. Je vous avoue qu'on s'améliore tous les jours. On est en flux tendu. On fabrique les émissions au jour le jour. Donc on s'améliore chaque jour. Il y a eu, par exemple, le premier petit problème de logo qu'on a corrigé tout de suite. Voilà, sur le décor aussi, on s'améliore. Ce sera de mieux en mieux au fil des jours.
Alors évidemment, les enseignants vont retourner dans leurs écoles, on ne sait pas quand, mais ça va arriver un jour, évidemment, collèges et lycées vont réouvrir, mais on pourrait se dire que de tels programmes pourraient perdurer, continuer d'exister. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, franchement, je ne sais pas, on vit une époque tellement folle, unique, voilà, c'est tellement bizarre ce qui se passe, on a réagi en tant que service public le plus vite possible. Voilà, c'est vrai que l'émission rencontre un succès assez fou. Mmh.
C'est un peu baissé. On va dire, les chiffres, c'était un carton total. Le lundi, le premier numéro que vous avez présenté entre 9h et 9h50, 1,07 million de personnes, c'est quand même dingue. 16% de part de marché pour des cours de CE1, vraiment, on dit bravo. Après, ça a baissé, je vous donnais les chiffres. Alors, mardi, c'était 800 000 et hier, 490 000. Mais c'est encore des niveaux considérables.
Alors ça baisse, mais ça reste leader. C'est-à-dire que toute la télé a baissé depuis lundi, en fait. Mais c'est naturel. Par exemple, hier, on était mercredi. C'est vrai que c'est un jour où il y a beaucoup d'enfants qui ne travaillent pas. Nous, on leur proposait de travailler quand même.
Ah oui, c'est vrai que ça fait mais, choc thermique.
Voilà. Oui, exactement. Choc thermique. Mais ça permet aux parents quand même d'être un peu libérés de la pression à la maison. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes pour que l'émission continue éventuellement sous une autre forme ou sur les week-ends ou pendant les vacances. Franchement, on n'en est pas là. Ouais. Nous, l'urgence, là, c'est d'essayer de rendre ce service public le mieux possible jusqu'à la fin du confinement. Et puis après, on verra bien. Mais on n'en est pas du tout là.
Je veux dire où je veux en venir. Est-ce que le coronavirus pourrait sauver France 4. On sait que France 4 doit s'arrêter mi-août. Et quand on voit l'enthousiasme du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, on se dit que c'est possible. Il a tweeté le ministre. En ce moment même, la Nation apprenante sur France 4, avec un cours de mathématiques pour l'école élémentaire, magnifiquement réalisé, bravo. Ça pourrait perdurer. Il y a des producteurs qui réclament ça.
Écoute, je suis bien d'accord avec vous. Après, moi, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux à ce sujet-là depuis qu'on a fabriqué ces émissions.
Mais vous-même,
après,
oui, non.
C'est vrai qu'aussi. Mais moi, je ne sais pas. Je sais pas le pouvoir de revenir sur une décision du gouvernement. Ce que je peux dire, c'est que c'est sûr qu'aussi, grâce à la plateforme Lumni, grâce à la plateforme Oku, les jeunes, ils consomment aussi beaucoup de contenu sur leur téléphone, leur tablette, ouais, tout ça, et ils ont l'habitude aussi maintenant d'aller sur les plateformes qu'a mis en place France Télévisions pour la jeunesse. Donc,
okay.
Donc voilà, moi, je ne suis pas le seul qui va pouvoir sauver le truc. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est vrai que c'est une demande qui est très fréquente depuis que ces émissions arrivent depuis lundi.
Je le rappelle, la Maison Lumni, c'est du lundi au vendredi sur France 4 à 9h pour les élèves de CP, CE1. Pour CE2, CM1, CM2, c'est avec vous, Alex Good, sur France 2 à 10h et sur France 5 à 11h et sur France 4 à 15h45 et à tout moment sur lumni.fr. Merci Alex Good d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe. Nous, Culture Média, continue évidemment. Il y aura le rappel des titres de 10h. Et puis, on sera avec Valérie Muller pour le documentaire Danser sa peine, diffusé ce soir sur la 3. Le chorégraphe Angelin Presse-Locage a fait danser 5 détenus UES et femmes de la prison des Baumettes à Marseille. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et puis, on recevra l'humoriste Harry Habitant. Chaque soir à 19h, il organise un apéro géant sur Instagram. Et puis, dans les indispensables, musique, Angèle Châtelier va nous faire découvrir, je ne saurais pas dire son nom. Son nom de famille, c'est Steven, c'est un génie de la folk. Le prénom, c'est Angèle qui le dira. Et puis un jeu Animal Crossing, ce sera avec Clément Le Saffre. Vous êtes bien sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h donc pour la suite de l'émission avec Valérie Muller pour son documentaire Danser sa peine, diffusé ce soir sur France 3, où comment le chorégraphe Angelin Preljocage fait s'évader 5 détenus de la prison des Baumettes à Marseille grâce à la danse. Évidemment, c'est une évasion virtuelle. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino et puis nous recevrons l'humoriste Harry Habitant qui organise chaque soir un apéro géant sur Instagram. J'aime beaucoup le titre, on se fait yèche. Et puis dans les indispensables, on va pas se faire yèche, de la musique avec un génie de la folk et un jeu vidéo Animal Crossing.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
C'était un grand article dans La Provence, le quotidien régional autour de Marseille. Le titre, Preljocage sort de l'ombre, 5 détenus des Baumettes. Angelin Preljocage, c'est l'un de nos plus grands chorégraphes. Après avoir donné des spectacles à la prison des Baumettes, il a décidé de franchir un pas inédit, créer un spectacle, un ballet, non pas pour, mais avec des détenus, en l'occurrence 5 prisonnières, qui du coup le sont moins. Bonjour Valérie Muller.
Bonjour.
À la ville, vous êtes l'épouse d'Angelin Preljocage, vous avez déjà fait un film ensemble, mais surtout vous êtes cinéaste et vous avez signé un documentaire qui retrace au jour le jour la construction de ce spectacle qui a été donné dans des salles prestigieuses devant un public de connaisseurs. Le film s'appelle Danser sa peine, il a reçu le grand prix du documentaire au dernier FIPADOC et il passera ce soir à 23h25 sur France 3. Mais tout d'abord, comment est né ce projet de ballet avec des femmes incarcérées? C'est venu de qui?
Alors, c'est venu d'Angelin. C'était une initiative d'Angelin Preljocage qui allait régulièrement à la prison des Baumettes avec un petit groupe de danseurs pour présenter des extraits de chorégraphie. Et puis, il recevait souvent des messages très émouvants, des retours de détenus, et des lettres. Et il s'est dit, bah, plutôt que de repartir et de laisser les détenus repartir dans leurs cellules, pourquoi je ne ferais pas un spectacle avec des détenus. Et on a parlé au directeur des Baumettes, qui était assez partant. Et moi, très vite, je lui ai dit, ça, c'est une aventure que j'aimerais vraiment suivre et filmer. Et
sur quels critères ont été choisies les 5 femmes de la troupe? Enfin, au départ, elles étaient 6, mais les 5 qu'on voit au final.
Alors, en fait, ce sont des critères pénitentiaires, en fait. Elles étaient ce qu'on appelle permissionnables, c'est-à-dire qu'elles avaient effectué leur peine de sûreté et qu'elles pouvaient sortir soit pour des permissions de 24 heures ou jusqu'à des permissions de 72 heures, ce qui a été le cas quand elles sont parties au Festival de danse de Montpellier pour donner le spectacle.
Alors, il y a une difficulté dans la difficulté, je vais y venir. Le ballet, ce n'est pas un petit spectacle de fin d'année à l'école. Hein. J'ai vu le doc. Le ballet a été donné plusieurs soirs de suite dans des salles prestigieuses. Je vais les citer. Le Pavillon Noir à Aix-en-Provence et au Festival International de la danse de Montpellier. Et j'arrive à la difficulté. Une grande partie du film se déroule en prison. La prison est par définition, je n'apprends rien à personne, un milieu très confiné. Comment avez-vous pu y faire entrer votre caméra? Parce qu'une chose est d'avoir envie de suivre Angelin, une autre est d'avoir cette autorisation. Comment avez-vous réussi ce tour de force?
Alors, effectivement, c'était assez compliqué. J'avais l'accord de principe du directeur de la détention, mais c'est vrai que quand on arrive en prison avec une caméra, personne n'a envie de vous, que ce soit les détenus comme les surveillants. Bon, ils ont tous toujours, ils ont peur qu'on cherche le sensationnel. Et moi, je leur ai beaucoup parlé, aussi bien aux surveillants qu'aux détenus que je croisais, et celles qui faisait le programme, je leur disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que la danse peut apporter à des personnes qui sont incarcérées, privées de toute initiative et de mouvement. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup parlé avec toutes les personnes que je croisais et progressivement, avec l'équipe, on était 3, un opérateur son et un opérateur image. Je pense qu'on s'est un peu fondu dans le décor et les gens se sont habitués à nous voir. On a passé 4 mois en détention, pratiquement, enfin, 2-3 fois par semaine. Et la confiance est venue progressivement.
Oui, mais il fallait déjà l'autorisation de tourner le premier jour. Et ce qui est assez remarquable, c'est que vous montrez les prisonnières à visage découvert. Alors que dans ce type de sujet, de documentaire, elles sont souvent floutées. Est-ce que les femmes elles-mêmes ont été difficiles à convaincre de montrer leur visage? Parce que normalement, c'est une chose qu'on n'a pas envie de montrer quand on sort de prison. On a envie que cette chose-là soit oubliée. Or maintenant, leur visage, on l'a vu. Comment avez-vous réussi à les convaincre de montrer leur visage?
Alors effectivement, c'est très compliqué parce que il y en a, enfin bien sûr pour une fois qu'elles sont sorties, le film reste. Ouais. Moi, ce que je leur ai dit, enfin, elles étaient assez fières de montrer le travail qu'elles allaient faire avec Angelin, Preljocage, donc tout le travail de préparation de la danse et du spectacle. Mais quand je leur ai parlé de les interviewer, elles me disaient mais non, on a rien d'intéressant à dire. Et puis progressivement, on a commencé des petites interviews, je les ai à deux, c'est-à-dire pendant que j'en interviewais une, il y avait l'autre qui regardait, j'avais un petit retour dans l'iPhone, donc elle pouvait voir l'image, elle pouvait aussi entendre ce que disaient leurs co-détenus, et progressivement la parole s'est libérée, il y a une conscience qui s'est instaurée, et je pense qu'elles se sont faites les porte-paroles aussi de toutes les détenues, et c'est ce qui a... À la fois, il y a eu un travail de libération du corps à travers le travail qu'elles ont fait avec Angelin, Preljocage, et puis avec la présence de la caméra, la libération de la parole, il y a eu un double travail qui s'est opéré. Et c'était une aventure humaine très forte, en fait, oui.
Aventure humaine, effectivement, des deux côtés. Preljocage, au début, il n'est pas totalement à l'aise dans ce qui est un nouvel environnement pour lui. Écoutez, on va l'entendre, il parle de ses danseuses, des danseuses, pour lui, d'un genre nouveau.
Il faut que je trouve comment déclencher chez elles des émotions que j'arrive à déclencher chez mes danseurs. Mais je pense que ce n'est pas avec les mêmes outils. Donc je suis en train de réfléchir à quels outils. Je suis en train de les fabriquer aussi, puisqu'ils n'existent pas.
3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu arrives dans une position. vous juste vous soulevez les cheveux et vous restez un 8 sans rien faire.
Là, je me sens un peu déstabilisé, un peu désarmé aussi, parce que c'est comme si je m'aperçois que les choses qui fonctionnent avec les danseurs, tous ces mystères de la création, en fait, là, semblent ne pas tout à fait opérer de la même manière.
Vous avez travaillé comment? Vous avez filmé toutes les répétitions? Au contraire, il y a des moments où vous étiez sans caméra?
Alors, on a filmé pratiquement toutes les répétitions. C'était vraiment un travail d'immersion. Effectivement, au début, peut-être, il y a eu quelques répétitions où je suis venue juste pour leur parler. Mais sinon, non, on était là pratiquement pendant toutes les répétitions. Et c'est vrai que Angelin a eu des périodes vraiment de doute très importants, parce que effectivement, il a l'habitude de travailler avec des danseurs extrêmement techniques, extrêmement performants. C'était la première fois qu'il travaillait avec des amateurs et c'était pour lui un véritable défi. Et progressivement, il a trouvé les clés avec les détenus aussi, elles-mêmes, avec leur investissement, leur désir de faire ce spectacle. Il a inventé les clés pour créer une danse, pour créer un spectacle qui a été donné ensuite sur scène devant un public vraiment de professionnels et d'amateurs de danse.
J'aime beaucoup votre, pas lapsus, mais j'aime beaucoup votre inconscient, Valérie Muller, puisque ça se passe en prison et vous dites qu'Angelin Préjocage a trouvé les clés. Vraiment, c'est une magnifique évasion. On vous retrouve, Valérie Muller. On va parler de votre documentaire Danser sa peine. C'est ce soir sur France 3. 5 détenus de la prison d'Ebomet comme on ne les a jamais vus. On se retrouve tout de suite. On marque une pause.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Valérie Muller, je le rappelle, vous avez réalisé Danser sa peine, qui fut le grand prix documentaire du FIPADOC 2020. C'est diffusé ce soir sur France 3 à 23h25. Il est question de détenus qui sont en prison et qui font, on leur apprend à faire une chorégraphie auprès d'Angelin Préjocage, le grand chorégraphe. Et vous n'avez pas éludé les tensions dans la prison. Le chorégraphe, on va entendre un son, le chorégraphe se trouve dans un couloir pour rejoindre l'atelier. Et il y a un groupe de femmes qui se prennent la tête. On comprend pas trop ce qui se passe, mais on perçoit tout à fait la tension qu'il y a entre cette dizaine de filles, parce qu'elles sont très jeunes, et les gardiennes qui s'interposent entre elles. Document sonore. On sent la tension, on sent que c'est pas un milieu comme les autres et cette altercation a eu des conséquences.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a une des détenues qui a quitté le projet. Je pense qu'elle était de toute façon un peu fragile. Elle n'arrivait pas vraiment à comprendre peut-être le travail et les enjeux. Et du coup, il y avait son amie, la jeune Sophia, qui était très déstabilisée par ça, qui après, derrière, n'arrivait plus à travailler. Et c'est vrai que Angelin a réussi à lui faire comprendre les enjeux, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout d'un travail. Il voulait absolument pas l'expulser du projet. Il voulait au contraire que ce projet soit intégrant. Mmh. Mais c'est vrai que pour certaines, surtout les très jeunes filles comme Sophia, c'est difficile de comprendre réellement les enjeux et de comprendre que d'aller de se dépasser pourrait lui apporter une satisfaction.
Ouais. Il y a une détenue qui dit en substance « La détention, c'est beaucoup plus qu'une attente, c'est également une punition, c'est beaucoup plus douloureux qu'une attente », dit-elle, et on la comprend. Mais comme souvent dans ces reportages, il y a un non-dit, il y a un angle mort. On ne sait pas pourquoi ces filles sont là, pourquoi ce choix de ne pas le révéler. Ce que je veux dire, ça donne l'impression que la prison est une injustice gratuite et aveugle. Pourquoi ne pas dire ce que ces filles, ce que ces femmes ont fait pour être ici ?
Alors, c'était un accord moral que nous avions.
Avec qui ? Avec la chaîne ou avec l'administration pénitentiaire ? Ou avec les filles ?
à la fois avec l'administration pénitentiaire et à la fois avec les détenus.
D'accord.
Et donc, de toute manière, qui m'intéressait. J'ai trouvé que du coup, ça donnait un angle pour le documentaire très intéressant parce que on parlait du corps en détention et de ce que l'art et le travail du corps et disons l'imagination des mouvements pouvaient avoir de rédempteur, de ça pouvait en quelle manière ça pouvait préparer la sortie, la réhabilitation.
Ouais. Mais oui, je suis absolument d'accord avec vous. Mais en même temps, quand on les voit qui donnent le spectacle à Montpellier ou Aix-en-Provence, les gens qui les applaudissent savent que ce sont des personnes qui sont incarcérées. Donc cette chose-là, ce non-dit, il y a à la fois du non-dit et il y a du dit.
Absolument.
Ils ne les auraient peut-être pas applaudis comme ça s'ils pensaient que c'était juste des filles qui sortent de l'école de danse.
Non, bien sûr, les spectateurs étaient au courant. Je pense que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que de toute façon, ces personnes ont été jugées, mmh. Elles ont effectué leur peine de sûreté, mmh. elles sont désormais permissionnables et sont dans des processus d'aménagement de peine. Et donc, moi, je pars du principe que tout le monde a le droit à une seconde chance. Et parler des peines, en fait, il faudrait un film à lui tout seul pour parler de chaque peine, parce qu'il faut avoir tous les dossiers, les détails des dossiers.
Bien sûr.
Là, je pouvais pas me permettre d'évoquer ça, et je trouvais que c'était très intéressant. Et d'ailleurs, je trouve que ce qu'on vit actuellement est un écho très particulier.
Ah, j'allais vous en parler, justement. Le télescopage avec l'actualité, c'est complètement dingue. On est au jour 10 du confinement. Il y a certains qui nous écoutent, même certains de l'équipe qui commencent à trouver le temps long, et c'est normal. Au Beaumet, il y a des femmes qui étaient là, non pas depuis 10 jours, mais depuis 10 ans. Et j'aimerais savoir quel rapport elles ont avec le temps qui passe. Est-ce qu'elles comptent les jours, par exemple, ou est-ce qu'au contraire, pour elles, le temps s'est arrêté et avec cette initiative, le temps s'est remis à rouler, si j'ose dire?
Alors, c'est très variable en fonction des individus. Il y en a qui... Il y a des personnes qui sont très dépressives. En l'occurrence, toutes ces femmes qui ont suivi le programme étaient assez volontaires. Elles sont très déterminées dans leur aménagement de peine. Pourtant, c'est un travail très laborieux parce que quand on est en détention, on est privé de toute initiative. On dépend entièrement du bon vouloir des surveillants qui ont les clés des portes, en fait. Ouais.
Hein. Et même le réveil, pardonnez-moi, j'ai appris quelque chose, qu'on les réveille à 5h du matin, il y en a une qui dit « mais ça sert strictement à rien ». Et même le réveil, l'heure du réveil est décidée par l'administration et pas par elle-même.
Oui, il y a tout un système qui est quand même fait pour les oppresser. Mmh. Et donc, elles dépendent toujours du surveillant et progressivement, il y en a certaines qui disent on se crée une carapace, on devient quelqu'un d'autre, parce que on peut pas être nous-mêmes. Il y a une agressivité, une tension permanente et il faut se protéger absolument.
Ouais, j'ai compris. C'est à voir. Vous vouliez dire une dernière chose? Allez-y, dernier mot.
Non, c'est que par rapport à ce qu'on vit, c'est qu'elles aussi, elles ne sont pas du tout connectées. Hein. C'est-à-dire, elles n'ont aucun, à part la télévision, elles n'ont pas de téléphone portable, pas d'ordinateur. Et donc, c'est vraiment un isolement complet.
Merci beaucoup Valérie Muller. On a encore plein de questions pour vous. Danser sa peine, votre documentaire, Grand Prix documentaire du FIPADOC 2020. Ça passe ce soir sur France 3 à 23h25. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe. Culture Média continue évidemment avant de retrouver Hélène Manarino pour son journal de la culture. Musique, on va écouter Offenbach avec Nick Waterhouse. Ça s'appelle Catchy et c'est sur Europe 1.